Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le mardi 16 février 2021 avec le temps plein. Qui il y a en studio aujourd'hui avec nous ?
Eva.
Oui.
Inaya.
Salomé.
Anaïs.
Ouais.
Pauline.
Héloïse.
Stella.
Alice.
Eh bien, bienvenue à tous. Alice, tu es là pour la première fois ?
Oui.
Quel âge as-tu ?
9 ans.
9 ans. Eh bien, bienvenue à Radio Emma. Et justement, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir David Stoleru. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être venu et bienvenue à Radio Emma. Alors, vous ne le connaissez pas et on va lui poser plein de questions sur son parcours pour en savoir plus sur lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été architecte et que maintenant, il dirige le Bait Project. Il nous en dira plus tout à l'heure sur ce que c'est. Mais en deux mots, c'est un projet qui fait se rencontrer des ados de deux écoles différentes, qu'elles soient géographiquement différentes, socialement différentes, aux orientations différentes, pour apprendre à travailler et à créer ensemble. Et vous en saurez plus tout à l'heure, mais il faut juste savoir que ce projet, il se passe autant à Athènes qu'à Paris, qu'à Bruxelles, qu'à Tanger, qu'à Marseille, qu'en Macédoine. Enfin voilà, ça se développe énormément. Il nous en racontera plus tout à l'heure, mais au moins on va en savoir aussi déjà plus sur son parcours à lui. Donc Eva, je te laisse poser la première question.
Dans quelle ville êtes-vous née et où avez-vous grandi ?
Alors déjà, ça commence compliqué. Ce qui pourrait être simple. Alors je suis née à Nice, pas très loin d'ici, en France, et puis ensuite j'ai grandi une partie à Nice, mais après à partir de 11 ans, dans une ville très éloignée à Jérusalem.
En Israël.
En Israël, exactement, où là j'ai continué mon parcours jusqu'au moment où je suis parti faire mes études à Paris.
Waouh, eh ben dis donc, Nice, Jérusalem, Paris, t'étais voué déjà à faire des choses dans le voyage.
Ah ben, j'ai bien l'impression que ça m'a collé dès le départ. Parce que depuis, ça n'a jamais fini.
Wow. Donc,
effectivement, ouais, j'ai envie de découvrir à chaque fois d'autres horizons, d'autres lieux. Et voilà ce qui m'amène aussi à Marseille.
Donc de 0 à 11, Nice.
Exactement.
D'accord. On commence déjà à voyager. Vous pouvez continuer, les filles, avec la deuxième question, qui est celle qui nous intéresse au point de départ.
Quel genre d'adjo étiez-vous ?
D'a quoi ?
D'ado.
Ah, d'ado, voilà.
Ah, waouh, quelle question.
Ouais.
Bon, ben
on rentre dans le vif du sujet
on
direct.
Rentre dans le vif, ouais, ça commence sec. Alors, quel genre d'ado ? Alors, c'est difficile de le définir moi-même. Ça, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux demander aux gens autour, aux parents, aux copains. Je pense que j'étais un ado. En fait, j'ai du mal à dire j'étais. Je crois que je suis. Je continue à être un petit peu cet ado-là qui, d'un côté, fait pas forcément, c'est-à-dire j'étais pas un ado rebelle, je faisais pas des grandes vagues, et puis en même temps il y avait quelque chose de sous-jacent assez assez fort, et donc en fait voilà, c'est la combinaison entre une apparence extérieure peut-être assez tranquille et puis en même temps des grosses vagues qui étaient plutôt en sous-face. Je dois ajouter que en fait j'ai grandi dans un environnement très traditionnel. Et cet environnement très traditionnel, obligé à toute une série de règles, toute une série de normes, qui peut-être aujourd'hui nous paraîtraient un petit peu difficiles ou incongrues. Et en fait, à l'intérieur de ces normes, j'essayais de trouver mon espace de liberté. Je pense que ça se traduisait surtout de cette façon-là. Et donc, pour trouver dans un environnement très rigide et traditionnel un espace de liberté, il faut être créatif.
Ouh, c'est joli ça. Est-ce que ça vous parle ça à vous ? Cette idée de grandir dans un cadre assez organisé et qui donne envie un peu comme ça de s'ouvrir ou de s'épanouir ?
Oui, moi mes parents ils m'ont toujours vachement élevée dans découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Moi aussi, je suis enfant d'expatriés donc voilà.
Expatriée de où ?
J'ai fait Thaïlande, Paris, Roumanie, Reparis et Marseille.
Wouhou !
Wow, c'est beau, ouais. J'ai déjà vu pas mal de choses.
Ouais, en fait, moi aussi, mes parents, ils ont beaucoup voulu me faire découvrir de choses et on a beaucoup voyagé.
Où, par exemple ?
On a fait un petit peu tous les continents, voilà.
Tu dis ça comme si vous aviez fait 3 pays d'Europe. C'est énorme d'avoir fait tous les continents.
Non, on n'a pas fait l'Océanie encore.
Mais vous avez vécu Amérique du Nord, Amérique du Sud ?
Non, on n'y a pas vécu. On y est allé soit plusieurs mois, soit normalement des vacances. Et j'ai vécu un an à Malte.
Ouais, quand même. Quand même. Ça vous a fait ressentir quoi d'habiter dans des cultures différentes ?
Moi, je m'y attachais beaucoup, j'avais du mal à partir. Enfin, j'ai eu du mal à partir après. J'ai du mal à oublier, quoi. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand j'y repense. Je me dis, c'était bien d'être là-bas et tout ça.
Waouh.
Donc,
ouais, je prépare à y retourner.
Et est-ce que t'es arrivée, Stella, par exemple, à nouer rapidement des connexions avec des gens ?
Oui, parce que je trouve que les gens, ils étaient vachement curieux, en fait, on va dire, ou ils s'intéressaient vachement à toi, ta culture aussi, ta langue, ils te posaient plein de questions et tout ça. Enfin, après, j'ai peut-être eu de la chance et je suis tombée sur des gens très gentils aussi, hein, parce que voilà. Mais non, franchement, les gens étaient super aussi. J'en garde un super bon souvenir.
Bah, après, c'est des pays aussi assez ouverts. Enfin, la Thaïlande, c'est pas que ce soit ouvert, mais c'est un pays doux. Les gens sont doux et gentils. Après, je sais pas s'ils t'ont touché les cheveux parce qu'ils voyaient une blonde pour la première fois.
Il y avait les moines, ils ne sont pas censés prendre dans leurs bras des enfants. Ils me prenaient dans leurs bras parce que j'étais blonde. Et pareil, un jour, j'ai disparu. C'était mon anniversaire, on l'avait fêté au restaurant. Et j'ai disparu dans la cuisine parce que tous les serveurs, ils voulaient me prendre dans leurs bras et tout ça. Parce que j'étais blonde.
Et oui, c'est ça. Souvent, c'est comme ça. Quand on découvre des couleurs de peau ou de cheveux différentes, on a besoin de toucher, etc. Eh ben, ça démarre bien tout ça.
Oui. Ce qui paraît, c'est en Chine. Quand ils voient quelqu'un plus foncé de peau, bah, c'est comme un monument pour eux.
Ah oui.
Ils n'ont pas l'habitude.
Ouais, c'est ça, exactement, quoi. Écoutons-nous, déjà, pour se faire un peu plaisir, Alec Benjamin, If We Have Each Other. She was 19, with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day. Cleaning dishes in the evening, she could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's alright. She was waiting on the day she hoped a baby would arrive. She'd never be alone, have someone to hold. And when nights were cold, she'd say, the world's not perfect, but it's not that bad. If we got each other and that's all we have, I will be your mother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. When the world's not perfect, when the world's not kind, if we have each other, then we'll both be fine. I will be your mother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. They were 90 and we're living at the days on the west side of the city, next to where they got engaged. They had pictures on the walls of all the memories that they made. And though life is never easy, they were thankful that they stayed with each other. And though sometimes were hard, even when she made him angry, he would never break her heart. No, they didn't have the money to afford a fancy car, but they never had to travel cause they'd never be apart. Even at the end, their love was stronger than the day that they first met. They'd say, the world's not perfect, but it's not that bad. If we got each other and that's all we have, I will be your lover and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. When the world's not perfect, when the world's not kind, if we have each other, then we'll both be fine. I will be your lover and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. You know I'll be there for you. I'm 23 and my folks are getting old. I know they don't have forever and I'm scared to be alone. So I'm thankful for my sister, even though sometimes we fight. When high school wasn't easy, she's the reason I survived. I know she never leave me and I hate to see her cry. So I wrote this verse to tell her that I'm always by her side. I wrote this verse to tell her that I'm always by her side. I wrote this verse to tell her that the world's not perfect, but it's not that bad. If we got each other and that's all we have, I will be your brother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. When the world's not perfect, when the world's not kind, if we have each other, then we'll both be fine. I will be your brother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. Alec Benjamin, If We Have Each Other. Merci, c'était très joli, je trouve. On est de retour sur Radio Emma avec David Stoléru qui va nous raconter un petit peu son parcours. Tout à l'heure, quand on parlait en fait de la culture dans laquelle on avait grandi, qui pouvait être contraignante ou au contraire ouverte, finalement, vous avez eu la chance d'avoir justement des parents qui vous ont soit encadré, soit ouvert sur d'autres cultures. le parcours de David, c'était plus, au contraire, un truc un peu plus fermé qui t'a donné, toi, envie de t'ouvrir.
Oui, voilà, en fait, je pense que ce que je voulais dire au travers de ça, c'est d'avoir grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de règles, beaucoup de normes.
Ouais.
Et donc, voilà, à un certain moment, d'avoir voulu un petit peu m'approprier ces règles, les transformer, les mettre à ma sauce, enfin, tout ça, c'était important pour moi.
On va passer à la question suivante.
Est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours professionnel ?
La réponse est un grand, grand oui. Parce qu'en fait, comme Mika l'a esquissé tout à l'heure, en fait, j'ai tout d'abord été architecte, je suis architecte. Donc j'ai étudié ça et j'ai travaillé là-dedans pendant une dizaine d'années ou un peu plus. Et voilà, tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'intéressait. Et que, en fait, l'histoire des lieux, la mémoire des lieux, tout ça, ça me parlait beaucoup. Et puis surtout le monde de l'éducation. Alors, j'ai jamais étudié l'éducation, j'ai jamais réellement suivi des études là-dedans, en tout cas pas pendant toute ma première partie de la vie. Et pourtant, je sentais que j'avais une très grande connexion avec le monde de l'éducation, ou en tout cas le concept de l'éducation. Et ça me venait précisément de mon adolescence, parce que j'ai étudié dans une école très spéciale. Et cette école, c'est ce qu'on appelle une école talmudique. Une école où on étudie des textes anciens, mais on étudie tout ça d'une façon très dynamique et très spéciale. Et j'ai passé 4 ans là-dedans. Et tout ça, ça m'a donné une certaine vision de la pédagogie et de l'éducation qui m'a ensuite réellement permis de développer tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc quand Mika expliquait un petit peu cette école nomade qui s'installe dans des lieux et puis qui fait travailler ensemble des adolescents, des élèves venant de contextes très différents, en binôme, deux par deux. Tout ça, c'est des concepts très, très liés à la façon avec laquelle moi-même j'ai étudié quand j'avais votre âge.
Waouh ! Ah oui, effectivement, c'est complètement lié alors.
Ah oui, la question, je ne sais pas d'où elle vient, en tout cas, c'est comme si elle avait été écrite précisément pour mon parcours. Et donc voilà, j'ai un petit peu laissé tomber l'architecture dans le sens de la construction d'immeubles, de logements, de bâtiments, etc., pour l'utiliser d'une façon complètement différente en la mélangeant avec l'éducation. Et forcément, parce que tout ce que j'avais reçu à ce moment-là, contre quoi je m'étais un petit peu rebellé à un moment donné, c'est revenu parce que c'était présent et que ça m'avait vraiment touché quand j'étais dedans.
Ah ben, magnifique. Et cette idée de la notion de construction et d'éducation, c'est de l'architecture, mais autrement, quoi.
Eh oui.
Finalement, c'est très, très beau. Est-ce que vous voulez passer à la question d'après ?
Comment avez-vous choisi votre orientation professionnelle ?
Justement, qui est un peu liée à ce qu'on vient d'évoquer, mais en creusant un petit peu.
Alors, pour la première partie, qui est celle donc liée à l'architecture, c'était, je pense, parce que j'avais cette propension à, quand je me baladais dans les villes, à tout le temps être en train de regarder ce qui m'entourait, les bâtiments, les places, regarder les détails d'architecture et tout ça, jusqu'à un moment où une amie avec qui j'étais m'a dit, mais je pense que c'était en me disant, mais arrête de me saouler. Mais en gros, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas architecte ? Et voilà, j'avais autour de 18-19 ans et puis ça a été comme un déclic, ça a été comme si on m'ouvrait les yeux en me disant « bah oui, évidemment, je suis tout le temps en train de regarder les bâtiments, l'architecture, les villes et tout ça » et puis ça m'est jamais effleuré. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, je crois que c'est mes parents qui m'ont dit « on connaît un architecte, pourquoi tu vas pas le voir ?» pour qu'il t'explique un petit peu de quoi il s'agit.
Ah.
Et donc, la première chose qu'il m'a dit, c'est « alors, écoute-moi bien, David, ne fais surtout pas architecte.
Oui, d'accord. C'est bien parti, ça.
C'était bien parti, ouais. Donc, évidemment, j'ai tout de suite voulu devenir architecte et commencer mes études là-dedans. Et voilà, j'ai adoré ça.
Effectivement. Et ça donne déjà lieu à toute une carrière et à toute une expérimentation. Quel était le genre de bâtiment sur lequel tu travaillais ?
Alors, moi, j'ai adoré travailler sur la réhabilitation. C'est-à-dire des choses qui ont une histoire, une mémoire, qui ont vécu, où il y a des gens qui ont évolué, il y a des choses qui se sont passées. Et puis, en fait, mon parti pris, c'était d'essayer de révéler au travers de mon intervention qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans ce lieu. Mmh. Et qu'en fait, les nouveaux habitants ou les nouveaux usagers de ces lieux puissent, d'une certaine façon, rentrer en contact avec tout ce qui avait bien pu s'y passer avant, puis être conscient de tout ça quand ils évolueraient dans le bâtiment. Et ça a donné des projets qui, moi, m'ont passionné. Et puis, ça a surtout donné la suite.
Eh bien, suite vers laquelle on ira après avoir écouté cette chanson de Cinematic Orchestra, dont je trouve qu'elle est incroyablement bien nommée, puisqu'elle tombe à point, elle s'appelle « To Build a Home ». Donc, ça tombe trop bien.
Ah oui.
Avec ce qu'on vient d'aborder. Qu'est-ce qui avait fait ce choix, déjà? C'était toi, Anaïs?
Ouais. J'aime bien écouter du classique, ça... Je sais pas, genre, j'écoute souvent ça et j'ai dû découvrir ça comme ça en écoutant des compositeurs.
Mm-hmm. Enfin, Cinématique Orchestra,
ouais,
c'est pas juste du classique, mais c'est un orchestre effectivement composé de plein de musiciens et beaucoup de jazzmen, beaucoup de mecs qui viennent du hip-hop aussi. Enfin, il y a de tout dans Cinématique Orchestra, ça qui est génial. Et non, je suis ravie que tu connaisses ça parce qu'en effet, il y a aussi une base orchestrale qui ressemble à du classique, mais qui est beaucoup plus ouverte aussi sur des cultures actuelles.
Ouais.
Génial. Allez, To Build a Home. The Cinematic Orchestra. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. The Cinematic Orchestra to Build a Home. J'adore ce qu'ils vont. On est de retour avec David Stoleru qui va nous parler de son projet grâce à la question suivante.
Et bien la question suivante c'est est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet justement?
Incroyable.
Comment s'appelle-t-il? Quand est-il né? Tout ça, tout ça.
Alors, effectivement, il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir envie de développer quelque chose de différent. Non pas parce que l'architecture, ça ne me plaisait pas, mais parce qu'en fait, j'avais fait partie d'un projet à Barcelone de protection d'un ancien site de patrimoine, très ancien, un site médiéval, et qui était très important pour une communauté qui était la communauté juive locale, puisqu'il s'agissait d'un ancien cimetière du Moyen-Âge. Et en même temps, la ville voulait construire là-bas une zone touristique, un espace actuel, contemporain. Et donc, il y avait ce conflit, en fait, entre les différentes parties de la société locale. Et pour moi, je pensais que c'était important, non pas uniquement de le conserver, mais en tout cas que ça ait un sens pour tout le monde. Et donc, à partir de là, j'ai réfléchi à un projet qui s'éloigne un petit peu de l'idée de l'architecte constructeur, mais qui, en fait... me permettre de transformer en fait un site, en fait de comment partager ou comment faire pour que un site qui a une telle histoire puisse avoir quelque chose à dire, puisse avoir un sens pour tout le monde. Et donc comment est-ce que en fait ça serait possible de faire parler les murs? Comment est-ce que ça serait possible de faire parler la mémoire d'un lieu? Et du coup, de là est née l'idée de transformer le patrimoine en une école. Alors comme on n'allait pas bétonner tous les sites anciens de patrimoine, parce que justement ça serait un petit peu contre-productif, l'idée a été de développer une école éphémère, une école nomade, qui puisse s'installer pendant un temps sur des lieux de patrimoine, et puis y rassembler en fait justement des gens différents, des gens qui ont un lien avec le lieu, et puis d'autres non, et de là est né le Beit Project. Et le Beit Project, qui veut dire maison, en hébreu, Beit, mais ça veut dire aussi, et c'est pour ça que ta chanson d'avant était tellement, avait tellement de sens par rapport à tout ça, Anaïs, mais ça veut aussi dire la deuxième lettre de l'alphabet, et donc c'est le chiffre 2. Parce qu'en fait, c'est l'autre, avec ses idées différentes, avec ses perspectives différentes, qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de sortir de ma bulle, d'aller plus loin, de sortir de nos idées préconçues, de nos idées reçues, et de découvrir et de développer autre chose. Et donc voilà ce qui se passe dans cette école. On s'installe dans un lieu qui a des histoires incroyables à raconter. Alors, comme exemple, on a travaillé ici à la Vieille Charité, le centre de la Vieille Charité à Marseille, dans le quartier du Panier. Vous connaissez peut-être, c'est un ancien hospice du XVIIe siècle, incroyable, et qui aujourd'hui est un musée, et en même temps lieu d'exposition. Et on s'est installé dans ce lieu. On a invité à chaque fois 2 collèges différents, donc par exemple un des quartiers nord et un des quartiers sud, ou bien un collège religieux, un collège laïque, et on les a fait travailler ensemble. À chaque fois, des binômes d'élèves qui réfléchissent ensemble, qui commencent par construire leur petite maison, donc cette espèce de cabane qui leur permet de s'approprier le lieu, de s'y installer. Et puis ensuite, pendant plusieurs journées, ils ont toute une série d'activités qui passent par la découverte du lieu, et puis ensuite par interpréter. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Qu'est-ce que ça dit à l'autre?
Et est-ce que ça passe par interroger des gens dans le quartier? Est-ce que ça passe par un travail comme ça d'exploration en fait de l'espace?
Tout à fait, puisque en fait c'est le dialogue entre les 2 élèves, mais c'est aussi le dialogue avec les gens dans la rue. Parce que c'est ça qui permet non seulement d'avoir des informations, mais aussi de réfléchir ensemble. Et donc dans le processus, ils utilisent la vidéo, ils utilisent plein d'autres moyens, des outils. Et entre autres, voilà, ils font un petit film sur leur interprétation du lieu, sur qu'est-ce qu'ils y comprennent et qu'est-ce que ça veut dire pour eux. En gros, qu'est-ce que l'histoire qui est racontée par ce bâtiment, en quoi elle est peut-être liée avec leur actualité, leur vécu, leur expérience. Et donc, il y a plein de choses qui se passent dans ces journées du projet Beit.
Et le principe, c'est de faire se retrouver 2 élèves d'un collège différent dans un 3e lieu.
Oui, c'est faire se rencontrer donc 2 groupes d'élèves ou 2 groupes de jeunes et les organiser donc 2 par 2. Donc il y a toute cette série de binômes qui va travailler en parallèle. Et voilà, ils commencent par monter leur petite cabane et c'est toujours très rigolo de voir comment des élèves qui ne se connaissent pas, donc un binôme, alors ça commence toujours avec un espèce de regard croisé comme ça, c'est qui celui-là ou qu'est-ce qu'il y a, la tête qu'elle a celle-là. Et puis, donc on leur donne un petit manuel de comment monter un petit peu à façon d'IKEA et comment monter leur cabane avec tout le matériel. Et puis une demi-heure après, ils sont assis tous les deux dans leur lieu commun. Et puis tous les deux, ils sont chez eux. Et donc il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, parce que du coup, sans avoir besoin de parler, de se présenter, de discuter pendant une demi-heure, si on a envie d'être ensemble, si on n'a pas envie d'être ensemble, on commence directement par faire. Et puis voilà, au bout d'une demi-heure, ils sont assis dans leur lieu qui leur appartient à tous les deux. Et là, il y a quelque chose de très important qui s'est passé et tout démarre de là. On ne va pas faire de cours, on ne va pas faire de transmission, on va pas... c'est les élèves eux-mêmes, c'est les jeunes qui du coup vont parler des choses qui les intéressent, qui vont faire le lien, qui vont transformer en fait l'histoire du lieu en quelque chose qui n'aurait rien à voir avec rien du tout. Ils vont le transformer en quelque chose qui parle d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est génial.
Qu'est-ce que ça apporte ? C'est-à-dire que ça fait se connaître déjà des ados qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, probablement ?
Ben, ça transforme tout parce qu'en fait, on ne voit plus jamais de la même façon la ville, le monde, et l'environnement et même l'autre. Parce qu'on a découvert en deux jours que quelqu'un qui avait une tronche bizarre, des habits qu'on n'aime pas, ou une façon de parler, un accent, ou quoi que ce soit, qui ne nous parlait pas du tout, ben, en deux jours, on découvre que c'est grâce à lui ou à elle qu'on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait fait tout seul. Mmh. Et cette découverte, je pense qu'elle est vraiment transformatrice.
Comme on dit la phrase, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Mmh. Il y a de ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter des choses comme ça, un peu innovantes, ou de rencontrer des gens que vous n'aviez pas l'occasion de rencontrer dans d'autres contextes ?
Ouais, j'avoue que ça m'arrive très peu parce que je n'aime pas les travaux de groupe.
Ah ouais ?
J'aime pas partager mon travail, j'ai du mal. J'aime bien tout faire moi-même, quoi.
Ah ouais ?
J'ai du mal à laisser ma confiance à quelqu'un d'autre, enfin, surtout pour un projet, un travail ou quoi.
Et tout ce qui est donc exposé ou truc à plusieurs à l'école ?
C'est très... Soit c'est moi qui fais tout. Enfin, en fait, c'est juste, c'est... soit c'est moi qui fais tout, soit c'est rien. Donc,
soit tu le fais toute seule, soit tu fais tout pour tout le monde.
Oui.
Dans tous les cas, c'est toi qui vas le faire, quoi.
C'est ça.
Mais les autres, ils ont envie ou ça les arrange bien que tu prennes tout en charge ?
Souvent, ça les arrange bien.
Tu m'étonnes.
Et à ton avis, pourquoi tu prends cette posture-là ? C'est quand même beaucoup de travail.
J'ai du mal à laisser une personne à côté. Enfin, j'ai du mal à avoir confiance en la personne. Je préfère me dire que comme ça, si on a une mauvaise note, si on rate, c'est de ma faute. Et
pareil, voilà. Si vous avez une bonne
note,
d'ailleurs.
Sinon, je serais énervée envers l'autre personne, quoi.
Et du coup, est-ce que tu imagines la possibilité que l'autre personne puisse apporter des choses importantes, nouvelles peut-être, que tu connais pas encore?
Ouais, mais j'ai du mal. J'ai...
Bah, il faut absolument que tu fasses le projet Byte.
Pour découvrir qu'on peut faire confiance parfois aussi aux autres, ou en tout cas si c'est pas sur le terrain de la confiance, mais découvrir des choses grâce à l'autre.
Ouais.
Déjà, c'est une première belle leçon.
Moi, ce que je trouve bien dans ce projet, c'est que du coup, bah, on voit que les gens sont différents. Et que du coup, bah, au départ, une personne que l'on trouve débile ou n'importe quoi, qui est juste différente, et bah, on va découvrir qu'elle n'est pas si débile. Et c'est juste qu'elle a une manière différente de penser, d'être, et etc. Donc ça apprend aux gens de ne pas juger trop vite et d'aller plus loin que, bah, que leur avis arrêté. Il ne faut pas avoir un avis arrêté, il faut plus s'ouvrir à la manière de penser de la personne d'à côté.
Et avec ça, tu n'as pas fait le projet encore. Et tu as déjà tout compris.
Bah oui, souvent on fait des petites interviews comme ça après, et puis effectivement, c'est ça qui ressort.
Mais dans la vie de tous les jours, une personne qui ne pense pas comme une autre, eh ben, elle est débile. Alors que c'est juste que on peut, chacun à sa manière de penser, de faire et de raisonner. Donc...
Eh ben, voilà. Bravo.
Et puis surtout que tu as tout à fait raison, Anaïs, mais surtout qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément la totale vérité. Et que du coup, il peut y avoir différentes façons de voir et qu'il y aura des parts de vérité dans chacune des visions.
Oui, mais c'est juste qu'on n'a pas le même raisonnement. C'est comme dans des... Par exemple, là, c'est construire une cabane, la personne à côté, elle va dire elle va dire une autre façon de construire la cabane que l'autre.
Mmh.
Et du coup, si ça se trouve, à deux, ils vont développer une autre technique avec leurs deux façons de faire. Et bah, dans le monde de tous les jours, j'ai l'impression que si on n'a pas ce projet en tête, etc., la personne, et bah,
quand ils vont se retrouver à deux, automatiquement, ils vont critiquer. Il y en a une qui va... Ou même un îlot, quand ils sont à cinq ou quoi, eh ben, il va avoir une personne qui va pas avoir la même façon de penser, ben, elle va être débile, etc. Alors que ça se trouve, sa manière de penser, elle est plus pratique ou peut-être égale, mais c'est juste notre façon de penser. Peut-être qu'elle ira plus vite, mais sera moins... je sais pas, c'est pas pareil. Donc, il faut... Voilà.
Waouh, j'adore.
Bon, bah, écoutez, dans quelques années, je vous prends toute là pour
tu m'étonnes.
Travailler avec nous.
Ça va être vous, les bénévoles.
Ah, mais moi, je veux bien. Hein, j'aime trop être bénévole.
Ah, j'adore.
Ah, mais ils sont pas bénévoles. Hein, moi, les gens qui...
Ah, pardon.
C'est des professionnels. Hein.
Quand tu parles tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'ils étaient bénévoles ou je sais pas, mais... Ouais,
non,
ouais.
Non, les
alors,
intervenants,
vous serez
les
payés, les gars.
sont...
Encore
ils font
mieux.
Un gros travail et
encore
ils,
mieux.
Forcément, ils doivent pouvoir s'y dédier.
Bien sûr, c'est super. En tout cas, ce que je trouve intéressant par rapport aussi à la question de se demander pourquoi à cet âge-là, ça peut être intéressant de le faire, c'est justement pour donner des clés dans la construction future d'une société. C'est-à-dire pour armer ou du moins en tout cas préparer des jeunes à plus tard dans la société, comme tu disais Anaïs, que dans la vie de tous les jours, on rencontre ce genre de choses, des différences, des gens qui pensent pas pareil, etc. Et que peut-être que d'avoir fait ce projet, d'avoir vécu cette expérience, ça te permet justement d'être plus ouvert en tant qu'adulte.
Mais je pense qu'on ne devrait pas le faire qu'en tant qu'enfant. Mm-hmm. Qu'il faudrait faire interagir les adultes et les enfants. Parce que moi, je sais que quand j'essaie de m'incruster avec des adultes, les adultes y rejettent parce que je suis un enfant. Mais alors qu'ils n'ont même pas essayé de voir comment on pensait, comment on raisonnait et qu'est-ce qu'on allait dire.
Ouais, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, les élèves, donc, dans le processus qu'ils réalisent, il y a une partie où ils vont interviewer des adultes dans la rue. Et ils arrivent donc avec les caméras, tout le matériel, etc., puisque c'est filmé. Et les adultes, bon, au départ, ils disent « Ah ben non, on n'a pas le temps », etc. Et puis, quand finalement, ils s'arrêtent et que commence l'interview et qu'ils entendent des questions hyper profondes qui ont été écrites, développées par les élèves, il reste un peu bouche bée. Et puis là, tout de suite après, s'ouvre un dialogue entre des adultes, des passants, des habitants, des citoyens qui sont là, en plein milieu de l'espace urbain, et les élèves, sur des thématiques hyper profondes, comme le racisme, la discrimination, ou bien la solidarité, l'héroïsme, le féminisme. Et puis tout d'un coup, les adultes en question se rendent compte à quel point des élèves, comme vous, ont développé une réflexion hyper profonde.
Mais est-ce que vous avez déjà essayé dans vos trucs pour construire les cabanes, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, vous avez déjà essayé de faire intervenir des enfants et des adultes ensemble?
Alors, non, pas vraiment. Souvent, on fait plutôt entre groupes d'un âge similaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec des adultes. Et là, c'était très rigolo aussi, parce que c'était une école qui nous avait demandé de faire avec tous les gens qui travaillent dans l'école. Et c'était vraiment génial.
Mais ce serait intéressant de faire justement enfant adulte, parce que justement, l'adulte va avoir plus tendance à écouter son raisonnement et pas à vouloir écouter l'enfant. Et peut-être que là, en faisant ce projet, il découvrira qu'un enfant n'est pas forcément plus débile en étant plus jeune. Un enfant peut avoir des raisonnements parfois même plus logiques qu'un adulte, plus âgé.
Wow. Bah écoute, je te prends au mot et puis je t'invite dès que c'est monté.
Ok.
C'est génial. Je rappelle le nom du projet, c'est BEIT Project. B-E-I-T.
Ouais, si vous voulez le chercher sur internet ou quoi, c'est The BEIT Project en anglais, donc
T-H-E. T-H-E. The BEIT Project.
.org.
Tout est en anglais d'ailleurs parce que c'est international. .org. Eh bien, écoutez, on va s'écouter une petite chanson après tout ça. On aura encore des questions. Pour l'instant, on va s'écouter une chanson que tu as programmée, David. Oh My Mama, d'Aléla Diane. Est-ce que tu veux dire un truc là-dessus?
Ouais, une chanson que m'a fait connaître ma sœur. Et puis depuis, il y a ma fille qui l'a chantée plusieurs fois, donc j'adore.
Ok. Aléla Diane, donc Oh My Mama, c'est parti.
She gave me these feathered breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said so. it all be dancing on. And I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards. Oh, my mama, she took my little hand and held on tight. All the mamas give the waters of their wells. All the mamas give the babies this very dirt we're walking on. Oh, my mama, she gave me these feathered breaths. And your mama, she gave you those feathered breaths too. And when the sky drops all those feathers, and when the birds sing in the morning, I'll be a mama, I'll have a daughter. I'll be a mama, I'll have a daughter. And I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies. I'll give her melodies, I'll give her melodies, and she'll be my little bird, and then she'll fly. She'll fly.
She'll fly. Oh, my mama, allez la Diane. Merci beaucoup, David Stoléru, pour ce morceau très joli. Donc on est de retour, voilà, avec David Stoléru, architecte, fondateur du Bait Project, et qui nous raconte son parcours depuis tout à l'heure, et c'est assez passionnant, et c'est surtout passionnant de voir vos réactions. Donc ouais, c'est vrai, la question c'était aussi de se dire comment ça se fait que ça s'élargisse autant, et est-ce que, si je compte bien, je vois des pays d'Europe en fait plutôt, même s'il y a Tanger qui est un peu de l'autre côté de la Méditerranée.
Oui.
Ça a commencé où d'ailleurs ?
Ça a commencé à Paris.
D'accord.
En 2011, donc en novembre 2011, ce qui fait que dans quelques mois, on va fêter les 10 ans.
Hey.
Mais voilà, ça a commencé à Paris, et puis tout de suite après, c'est parti à Rome, et à Barcelone, et ensuite à Berlin, à Lodz en Pologne, à Athènes, à Londres, enfin bon, dans plein de villes. Et je pense que dès le départ, dès la première conception du projet, l'idée, c'était que ce soit quelque chose de nomade, mais à l'échelle européenne ou internationale. Parce qu'en fait, c'est justement cette idée de nomadisme, cette idée éphémère, l'idée qu'on s'installe dans un lieu et puis après on continue le voyage, qui fait que finalement, il y a une dimension géographique, mais qui rencontre la dimension du temps. Puisqu'on travaille dans des lieux qui ont une histoire, qui ont une mémoire, et puis on est là pendant un moment et on continue dans un autre. On hérite aussi de tout ce que d'autres personnes nous ont légué, ont fait avant nous, et puis on va aussi transmettre des choses à l'avenir. Donc ça nous permet de nous situer dans un endroit qui est en même temps dans le voyage et dans l'éphémère, et puis en même temps qui prend toute son importance. Parce que si on est les héritiers de tout ce qui est venu avant nous, et puis qu'on va aussi transmettre des choses après nous à d'autres, bah notre rôle, il est crucial.
Notre rôle de passeur. Et alors donc, pour résumer quand même la situation, c'est toujours deux écoles différentes qui se retrouvent dans un autre lieu.
Oui, voilà. Alors, on choisit un lieu qui a plein de choses à raconter.
D'accord.
Et puis, on invite ensuite plein d'écoles pour y participer.
À Marseille, voilà. Par exemple, en dehors de la Vieille Charité, vous êtes allé où ?
Voilà, on était dans le coin du Panier également, mais on était devant la Major,
ouais.
Sur le parvis de la Major. Un endroit extraordinaire. Et puis, on était ensuite dans une autre place du quartier, à côté de la bibliothèque du Panier.
Beaucoup autour du quartier du Panier, qui est un peu un des plus vieux quartiers de Marseille.
Voilà,
il y a plein de choses à raconter. Hein.
Jusqu'à maintenant, à Marseille, on est resté dans ce coin-là.
Ouais.
Et puis, voilà, on va sûrement aller découvrir et explorer d'autres zones de Marseille. Après, dans les différentes villes, je dirais à Athènes, on a été aussi dans des endroits
ouais.
Incroyables. Et puis, à Londres, on a été dans un quartier d'immigration, pas loin des docks, où il s'était passé plein de choses, de lutte contre le racisme, de lutte contre le fascisme. Et puis, voilà, dans chaque ville, en fait, on essaye de découvrir quelles sont les thématiques les plus importantes sur lesquelles ben, les élèves seront passionnés de réfléchir, de travailler, de découvrir. Et c'est là qu'on s'installe avec nos petites cabanes.
Ok, eh ben, comme l'heure tourne vite et rapidement, on va quand même s'écouter tout de suite la prochaine chanson de A$AP Rocky, donc Every Day, avec Rod Stewart, Mark Ronson, Miguel, Stella, raconte-nous.
Bah, c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avant quand j'étais un peu plus petite. Et bah, je sais pas, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une des chansons que je pourrais l'écouter et ne pas m'en lasser.
Waouh! Ok, donc c'est A$AP Rocky, Every Day. On écoute ça, c'est parti sur Radio Emma.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Go to another dimension, my mind, body, soul, in prison, my eye, probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws, they ain't never do drilling, Drew, you've been sipping away at the truth, a double side of wisdom, a do, 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 rolling, do, hitting switch, rolling dishes, blowing kisses, to the bitches, holding biscuits, what's the business, beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord, forgive us, and only God can judge me, and he don't like no ugly. I look so fucking good, most dykes are fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit, I know I plead the fifth. I tell her holla if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it, I'm getting closest. My soul is, I'm seeing ghosts, it's a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of my emotions. Every day I spend my time drinking wine. Gorgeous hoes keep it saying that they caustic, cause they're cautious, get them nauseous. Cause I ain't even mad yet, niggas caught me in a good mood. Paparazzi when a nagger nigga chillin' at the back check. Hope they show me in my good shoes. When Papa got the brand new bag, Rocco got the brand new rap, that's good news. Hood news, usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming Pim Squad, hold it down.
A$AP Rocky Every Day avec Mark Ronson, Miguel, Rod Stewart, un kiff absolu, une reprise effectivement de Paul McCartney, et voilà comme quoi les classiques. Merci beaucoup David Soleru d'être venu nous parler et nous raconter, et si toi t'as une question aussi à poser aux ados, c'est le moment.
Ah, mais évidemment, ça fait une heure que je me retiens.
Ah, au moins.
En fait, ça paraissait tellement intéressant, là, tout ce qui a été dit, les remarques, etc., que je voulais vous poser une question qui, pour moi, est fondamentale. C'est vous qui êtes justement dans cet âge-là du collège, du lycée ou de l'école, hein, c'est quoi pour vous l'école idéale ou le lycée ou le collège idéal? S'il fallait imaginer quelque chose, là, ça ressemblerait à quoi?
Moi, je changerais tout.
Et tu mettrais quoi?
Déjà, j'aime pas le système de notes. J'aime pas qu'on soit noté, j'aime pas qu'on fasse un classement. Voilà, ça me plaît pas. Je trouve que ça met trop les élèves en compétition et c'est pas très sain. Et je trouve que, bon, les maths, le français et tout ça, ok, lire, compter, écrire, c'est très important. Même l'histoire et la SVT, mais au bout d'un moment, on doit apprendre d'autres choses. Enfin, au bout d'un moment, quand tu sais que toute ta vie, tu vas pas faire les vecteurs. Bah, t'as pas forcément envie de travailler dessus, quoi, enfin, d'apprendre ça à l'école. Donc moi, je pense que ça serait plus intéressant de faire des cours sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, des choses comme ça, quoi. Plus pour... Bah, ça, je trouve que ça serait pas mal pour progresser dans la vie, s'affirmer un peu, ou bah, alors des choses pareilles, travailler à deux, plusieurs, mais pas forcément sur quelque chose de très scolaire, mais plus ouais, la vie en communauté, enfin, je sais pas, c'est quelque chose pour grandir, hein, pour apprendre après à ce qu'on vive seul et qu'on soit préparé et que, voilà.
Super.
Comme ça.
Moi, je reviens un peu sur ce qu'elle a dit Stella et je la rejoins un petit peu sur le fait que je pense qu'il faudrait un peu plus nous écouter, nous. Parce que le système français, il est beaucoup sur on a fait ça comme ça, donc c'est comme ça pour tout le monde. Alors que je pense que nous, on est les premiers justement à être concernés dans tout ça. Je pense que ce serait intéressant qu'on nous écoute parce que, par exemple, une personne pour qui le sport, qui n'est pas une matière fondamentale non plus, ouais. C'est quelque chose qu'il n'a vraiment pas du tout envie de faire. Ben, je pense que ce serait pas plus mal qu'on l'écoute et qu'à la place, elle fasse quelque chose qui lui plaise, comme par exemple, ou quelque chose de plus intéressant. Je trouve qu'en plus, à l'école, on ne parle pas assez de la société actuelle. On parle beaucoup du passé, de tout ce qui s'est passé, etc., des choses fondamentales et on parle pas de la vie courante en fait de tous les jours et je pense que ce serait important parce que par exemple si on vient sur des sujets sensibles comme le harcèlement tout ça là, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse en parler à l'école quoi.
Ah ouais.
Oui, je suis d'accord.
Moi aussi je reviens totalement sur Stella et ce qu'elles ont dit toutes les deux parce que je pense qu'ils devraient par exemple là en première bah déjà en seconde on a la SNT. Donc c'est les sciences numériques et technologiques et c'est bien hein, voilà enfin non je t'ai dit ça
on va que, pas le langage Python
je pense qu'il y en a qui savent s'ils comptent se diriger dans l'informatique ou s'ils savent ils savent même pas lire un ordinateur et genre l'année prochaine on doit choisir 3 spécialités et dans le tronc commun donc tout on sera tous obligés de le faire il y a la SNT alors que la SNT c'est beaucoup plus une spécialité que les maths ou le français ou l'histoire et ça m'énerve beaucoup parce que du coup, on va être obligé de faire des choses qu'on n'aime pas et on va devoir choisir entre des choses qu'on aime. Et ça va nous fermer beaucoup de portes. Et aussi, par exemple, pour ce que Poppy, elle disait, pour le sport, etc., il y a des matières où il y en a qui ont des facilités,
ouais.
Du métabolisme, de l'environnement, de tout. Ça peut être les maths, ça peut être le français, mais surtout le sport et tout. Et le fait que ce soit noté sur ça, alors que, ben, par exemple, moi, je sais que je suis plus forte en endurance qu'en badminton. Ben, pourtant, je vais quand même être notée comme un qui est fort comme en tous les sports ou quoi. Et ça, c'est injuste, je trouve. Et ben, rien que le système de notes, c'est injuste parce que ça dépend de tous les profs, de tous les élèves, de toutes les interactions.
De l'humeur des profs aussi.
De l'humeur des élèves. Autant il se passe des choses dans nos vies.
Ouais.
Ah, c'est super intéressant tout ce que vous...
Ouais, je trouve que vraiment, on prend pas assez en compte l'avis des élèves et... Ouais.
On prend que le résultat, en fait.
Mais je suis d'accord parce que tout autour. Si on prend l'exemple de la SNT, imaginons, il y a un adolescent, il veut faire boulanger plus tard, je sais pas en quoi la programmation, ça va lui servir, quoi. À part s'il lance son site web, mais voilà.
Si, il le fait avec un robot, en fait.
Bah si, bien sûr que si, il va dessiner des baguettes sur Python.
Waouh. Mais surtout, la programmation, encore, il laisse l'histoire géo. Ok, ça, c'est intéressant parce que ça nous apprend notre culture, etc. Et ça nous apprend même le monde de maintenant, la géographie. Sauf que vraiment, la SNT...
Et quel débat génial. Je voulais juste vous demander, du coup, non pas seulement au niveau des contenus, mais si vous imaginez une seconde dans votre tête, à quoi elle ressemblerait, cette école ?
Physiquement.
Ouais, physiquement.
Mais moi, je dirais juste rajouter quelque chose dans cette école qui n'est pas de... Genre, que rien ne soit payant, que tout le monde puisse accéder à tout. Parce que le problème, c'est que la cantine, c'est payant. Alors qu'il y a des parents qui s'acharnent à pouvoir payer la cantine, mais ça se trouve, ils ne peuvent pas. Mais si, même, c'est payant.
C'est payant dans les écoles publiques, 3 euros.
La cantine, c'est 3 euros le repas. Mais il y a des parents qui ont 8 enfants, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et ben ils doivent quand même payer la cantine aux enfants, en plus de toutes les activités en dehors, etc. Déjà, il y a ça. Et en plus, c'est payant, mais je pense qu'il devrait y avoir des écoles où plus de personnes soient mélangées et qu'on recherche plus, on fasse plus de recherches sur les niveaux, etc. Parce que c'est n'importe quoi, je trouve. Genre, tout le monde est mélangé et... Attends. Tout le monde est mélangé, mais mal. Il n'y a pas de différence, je trouve. Personne n'est...
Ouais, en gros, tu veux pas qu'on cherche la perfection.
Voilà, tout le monde cherche la perfection et à être pareil, tout le monde doit être pareil. Et la différence, ben, elle est mal prise et elle est renvoyée. Par exemple, je connais un petit, il va passer en CP l'année prochaine parce qu'il a eu un retard et ben il passe en classe 8. Mais il est comme tous les autres enfants, il a 2 jambes, 2 bras. Pourquoi on le met en classe Ulysse ?
Après, justement, c'est spécialisé pour lui.
Oui, c'est spécialisé pour
mais
lui,
oui,
ça l'aide.
Mais c'est pas ça, mais c'est que le problème, c'est que
lui, il est motivé à réussir comme les autres parce que maintenant il y arrive, mais il ne cherche pas.
Ça ne lui enlève pas la possibilité de
prier. Oui, mais il veut essayer, mais ils ne veulent pas le laisser essayer.
C'est des professeurs spécialisés qui savent comment.
Oui, moi, je trouve que justement,
lui, il pense qu'il peut essayer. Il se sent capable, donc il le laisse faire. C'est juste eux qui l'obligent à aller dans cette classe.
Tu voulais dire quelque chose d'autre, Pauline, sur à quoi elle ressemblerait cette école ?
Ouais, moi, alors, ça, c'est peut-être aussi un petit peu en rapport avec ma passion, etc.
Mais, c'est quoi ta passion ?
Non, c'est les animaux en général. Et je sais que moi, si je devais avoir une école, elle serait déjà en plein air, dans un environnement beaucoup plus...
apaisant.
Apaisant. Pour qu'il y ait moins de... je sais pas comment
expliquer. Parce que là, c'est toute terre, on est tous dans une...
On dirait un peu des robots, en fait. Enfin, c'est bizarre. Et je trouve que ce qui serait pas mal à l'école, c'est qu'il y ait des animaux. Mais ça, après, je pense que c'est un peu moi, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça. Mais moi, si je pense que ça pourrait m'aider, par exemple, à m'apaiser, s'il y a... Parce qu'il existe des choses avec les animaux, par exemple, la ronron-thérapie, je pense à ça, là. Ça peut apaiser les gens, ça peut aider les enfants à se concentrer à l'école, enfin...
Bah, d'ailleurs, il y a un lycée à Marseille qui a...
Eh ben, on va la faire, cette école.
Il y a un lycée à Marseille qui a une espèce de ferme dans sa cour, c'est Courbastide. Je crois qu'ils ont des... Je sais pas si c'est des chèvres ou des poules ou des trucs comme ça.
J'ai une amie, elle va dans une école où il y a des poules. Voilà.
Inaya, pour terminer, ouais.
Moi, une école parfaite, pour moi, ça serait trop... bon, c'est bizarre. Pas forcément dans une forêt, mais en tout cas, le cercle, l'enceinte de l'école, il y aurait beaucoup d'herbes et des arbres, on pourrait se promener, ça serait quand même un petit campus, même si c'est pas grand. Et ça serait une grande bâtisse qui a l'air traditionnelle, mais à l'intérieur, c'est moderne, etc. Et par exemple, les profs, parfois, ils nous disent « Vous voulez qu'on aille faire cours dehors ?» Ou « Il y a des animaux dans la... » Comme elle dit, genre, quand on sort, on peut travailler, mais en même temps, on a l'impression d'être un peu chez soi parce que c'est...
Moi, je vois bien des poufs. Voilà, en plus, t'as pas des chaises en bois qui te font mal, des bureaux.
Ce qui manque souvent aux écoles, je pense que ce qui manque aux écoles, c'est ce côté convivial et familial.
Ouais, l'envie d'y aller. C'est trop.
Que là, tu vas, tu dis, je vais en prison, quoi.
Mais t'as peur d'y aller parce que t'as peur de te faire crier dessus parce que t'as pas fait ce devoir ou parce que t'as pas bien réussi. T'as peur de te recevoir une mauvaise note.
Parce que tu dis, tout mon avenir, il est là-dedans. Si je réussis pas,
parce qu'ils nous mettent que ça dans la tête au lieu de nous dire qu'on fait ça pour nous, on fait ça pour apprendre.
Après, ça, c'est surtout le système français parce que peut-être que dans d'autres pays,
Le système français, moi, je trouve c'est très toxique.
Franchement, merci.
Tu repars avec les valises pleines.
T'as vu ça ?
D'idées géniales, d'images. Franchement, pour un, je vous remercie. Et je vais essayer de faire.
Si vous créez cette école, j'y vais dire.
Moi aussi.
Et ben, on verra ça. En tout cas, si vous voyez qu'elle existe un jour, même si vous n'avez plus l'âge d'aller à l'école, vous saurez, vous y êtes un petit peu pour quelque chose.
Exactement.
Et c'est ça qui sera très beau. Merci infiniment, David Soleru, d'être venu. Merci les filles, c'était extra. Bravo à tout le monde. Et on se quitte avec le choix d'Eva, Fall In, Adrenaline. Ciao, ciao.
Au revoir, merci de m'avoir accueilli. Ciao.
Not even thinking twice, everything's frozen. Nothing but you and I. Can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise, tell me you'll stay with me. If I'm being honest, I don't know where this leads, but that's the only question. Baby, don't keep me guessing. Making me giving. Oh, baby, I can't.